Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc on va y aller. Je présente un petit peu le déroulé du Café Philo pour celles et ceux qui le découvriraient ce soir. Le thème, comme vous le savez, n'est pas donné d'avance. C'est vous qui allez le proposer. Donc dans un premier temps, Marie-France qui présente, va recueillir vos idées, vos formulations, bref, vos propositions, et puis très rapidement ensuite, on va choisir, vous allez choisir pour quelles questions vous avez envie de débattre. Sachant que vous pouvez voter pour autant de questions que vous souhaitez, si tout vous intéresse, vous levez à chaque fois la main. Et ensuite, on est parti pour un temps de discussion qui s'arrêtera vers 20h30, 20h40 maximum. Pour vous permettre de profiter de vos soirées ou de profiter du pot que l'association vous proposera à la fin du débat, histoire de prolonger les discussions. Voilà. Donc,
est-il possible de proposer deux sujets?
Bah oui, bien sûr, oui.
Il n'y a pas de vidéo.
Non, non. Voilà, écoutez, je vous écoute et puis voilà, on entend vos propositions.
Bonsoir. Je ne sais pas trop comment formuler. Je me questionne, est-ce que l'esprit des Lumières est voué à disparaître?
Est-ce que l'esprit des Lumières, qui n'est pas si simple à définir, est voué à disparaître? Est-ce que l'esprit des Lumières, avec un grand L, est voué à disparaître? Bonsoir.
Bonsoir. Ouais. Moi, ça serait le sport est-il une philosophie de vie? Et si oui, laquelle?
Donc, un sujet sur le sport. Le sport est-il une philosophie de vie? Et si oui, laquelle? C'est Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques modernes, qui définissait le sport comme une philosophie de vie.
Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais qu'on débatte sur la vérité. La vérité, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses. Enfin, il y a une grande, il y a des débunkers, des chasseurs de fake news, et tout un tas de médias qui se mettent en missionnaire pour dire au peuple ce qui est vrai. Et je voulais savoir, en fait, ce que c'est que la vérité, quoi. Est-ce que c'est juste un consensus, un truc sur lequel on est d'accord en ce moment? Un temps où on était d'accord pour dire que la Terre était plate. Voilà, ce genre de choses comme ça. Il y a plein de choses, plein d'exemples qu'on pourrait citer.
Donc, si je précise, pour sous forme de question un petit peu synthétique, qu'est-ce que la vérité? J'ai l'impression de
Voilà, c'est vraiment... consensus.
Voilà, la vérité n'est-elle qu'un consensus ? La vérité n'est-elle qu'un consensus ? Ou est-ce que c'est autre chose, quelque chose qui dépasserait le simple accord entre les hommes ? Bonsoir.
Bonsoir. Le pouvoir des mots, M-O-T-S.
Le pouvoir des mots. Que peuvent les mots ?
Et puis, la déliquescence de l'humanité.
La déliquescence de l'humanité. Oui, monsieur.
Bonsoir. Alors, dans le cas, un peu de philosophie politique, dans le cas où un responsable politique est pris la main dans le sac, certains précisent que comme ils ont été élus par le peuple, normalement, on ne peut pas les poursuivre sur le plan éthique. D'où ma question, dans un état de droit, qui doit avoir le dernier mot ? Le suffrage universel ou la justice ?
Question précise. Dans un état de droit, qui doit avoir le dernier mot ? Le suffrage universel ou cette instance dite indépendante qu'on appelle la justice ? Bonsoir.
Bonsoir. Moi, j'aurais aimé qu'on s'interroge sur les bienfaits et les méfaits de la paresse.
Voilà. Les bienfaits et les méfaits de la paresse. Ou, si on veut poser peut-être la question à l'inverse, pourquoi travailler ? À quoi bon travailler ? Mais la paresse. Ouais.
Bonsoir. Ma question, c'est est-ce un luxe de philosopher ?
Est-ce un luxe de philosopher ?
En tout cas, c'est une chance.
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, je voudrais poser une question par rapport à l'information et la surinformation qu'on a en ce moment. Je ne peux pas formuler ça comme ça. Est-il nécessaire de tout connaître ou important de tout connaître ?
Est-il nécessaire de tout connaître ? Oui, c'est une bonne formulation. Je vous donne le micro.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Moi, ma question, c'était plutôt faut-il savoir pour être, finalement ?
Faut-il savoir pour être ? Très bien. Question métaphysique. On a déjà un certain nombre de questions. Je regarde. Je balaye un petit peu le regard, non ? Pas d'autres propositions ? Alors Marie-France, je veux bien que vous nous les rappeliez dans l'ordre parce que je n'ai pas tout mémorisé.
Il y a eu beaucoup de sujets, donc effectivement, je pense que ce n'était pas inutile de les relister tous. Alors, est-ce que l'esprit des Lumières est voué à disparaître ? Le sport est-il une philosophie de vie ? Et si oui, laquelle ? Alors là, je voudrais quand même dire qu'au mois de mars, au mois de... On n'entend pas ? Non. Et là ?
Oui.
Je voudrais dire qu'au mois de mars, on va avoir une conférence sur le sport. Donc, il faut peut-être attendre pour la réponse la conférence du mois de mars. Voilà.
On peut en parler entre nous.
Alors, ensuite, la vérité n'est-elle qu'un consensus ? Le pouvoir des mots, la délicatesse. Ah non, mais c'est mon micro qui a des intermittences, je crois. Donc, merci.
Le pouvoir des mots, la déliquescence de l'humanité, dans un état de droit, qui doit avoir le dernier mot, le suffrage universel ou la justice ? Les bienfaits et les méfaits de la paresse. Est-ce un luxe de philosopher ? Est-ce qu'il est nécessaire de tout connaître ? Et enfin, que faut-il savoir pour être ?
Faut-il savoir pour être ?
Faut-il savoir pour être ?
Très bien, merci. Alors, premier sujet, donc, je me répète, hein, vous pouvez voter pour autant de sujets que vous le souhaitez.
Est-ce que l'esprit des Lumières est voué à disparaître ?
L'esprit des Lumières est-il voué à disparaître ? Donc, vous levez la main si vous souhaitez qu'on débatte de ça, et puis je fais un petit décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14.
Le sport est-il une philosophie de oui, de vie, et si oui, laquelle ?
Donc, débattre du sport ce soir. Un, deux, trois, quatre, cinq.
La vérité n'est-elle qu'un consensus ?
La vérité n'est-elle qu'un consensus ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Le pouvoir des mots.
Le pouvoir des mots. Que peuvent les mots ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
La déliquescence de l'humanité.
La déliquescence de l'humanité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Dans un état de droit, qui doit avoir le dernier mot, le suffrage universel ou la justice ?
Donc, l'état de droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Les bienfaits et les méfaits de la paresse.
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit.
Est-ce un luxe de philosopher ?
Est-ce un luxe de philosopher ? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Est-ce qu'il est nécessaire de tout connaître ?
Est-il...
Non,
c'est un autre sujet. Faut-il tout connaître ? Est-il nécessaire de tout connaître ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Et enfin, dernier sujet, que faut-il savoir pour être ?
Faut-il savoir pour être ? Faut-il savoir pour être ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Plein de sujets, des pauvres sujets, tout ça très intéressant.
J'ai l'impression que, j'ose pas dire, c'est la paresse qui caracole en tête, parce que je pense que la paresse, ça caracole pas, mais c'est quand même elle qui est en tête.
La paresse a bien travaillé.
D'accord. En tout cas, elle a fait se lever beaucoup de mains. Le maximum de mains, puisqu'il y a eu 28 voix pour la paresse.
Alors, le terme exact ?
Alors, là. C'était les bienfaits ou les méfaits de la paresse.
Et alors, la tradition veut que la personne qui propose ce sujet, c'est plus qu'une tradition, c'est un engagement philosophique, explique un peu pourquoi dans cette formulation-là, et puis qu'est-ce qui t'anime ? Pourquoi en fait cette question te préoccupe ? Oui, bien sûr. Oui.
Pour moi, j'ai l'impression que dans notre société, on critique beaucoup la paresse, on nous demande toujours de beaucoup travailler. C'est un peu le moteur de la société, de l'économie en général, donc forcément c'est hyper important. Sauf que je me demande si vraiment est-ce qu'on doit vouer notre vie à travailler. Est-ce que la paresse, justement, ça n'a pas que des côtés aussi, des aspects positifs ? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi des fois se reposer ? Et est-ce que c'est pas toujours vu comme quelque chose de négatif ? Est-ce qu'on pourrait pas trouver plutôt des aspects positifs dans la paresse ?
Très bien.
Surtout avec moi en tant que jeune qui travaille. Enfin, je pense qu'on travaille tous beaucoup, mais nous, on est quand même pas mal soumis à cette pression scolaire. Donc
toi, l'impression que tu as, c'est que tu travailles énormément, tu sacrifies beaucoup de...
Non, mais un petit peu quand même.
Oui. Très bien. Merci. Ben, je vous laisse d'abord prendre un petit peu la parole sur cette question pour essayer de défricher un petit peu le débat, les enjeux, les perspectives. Merci.
Je vais commencer pour ouvrir les débats. Alors, c'est pas nouveau, hein. La paresse est un des 7 péchés capitaux. Donc, ça remonte pas. C'est pas notre société actuelle qui fustige la paresse. Donc, quand on parle de paresse, on parle de morale. C'est du bien et du mal. Donc, ne rien faire, l'oisiveté, c'est mal. C'est la mère de tous les vices. Et le travail est même, pour certains, une valeur. Alors que c'est pas une valeur, c'est juste un capital, c'est juste quelque chose qu'on possède et qu'on peut mettre au service de ce qu'on veut. Voilà, donc c'était ma petite entrée en matière.
Donc on conserve d'abord effectivement l'ancrage religieux que vous avez évoqué sur la paresse comme l'un des 7 péchés capitaux, en lien avec un passage très célèbre de la Bible commune aux 3 religions monothéistes. Adam et Ève ont péché, ils ont croqué le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne fallait pas, en fait. Et comme vous savez, Dieu condamne Adam à gagner son pain à la sueur de son front et Ève à enfanter dans la douleur. Dans les deux cas, on parle bien de travail. Voilà. Donc ne pas travailler, c'est déroger à finalement cette injonction divine.
Bonsoir.
Bonsoir.
Moi, je voudrais déjà qu'on s'interroge sur le terme paresse. C'est quoi exactement se paresser ? Est-ce que s'activer toute la journée à déplacer des choses, ce n'est pas paresser ? Est-ce que réfléchir, passer sa journée à se poser des questions, à réfléchir, par exemple la philosophie, par exemple, on se déplace pas dans tous les sens, on est assis quelque part et on voit, comme le faisait Rousseau à un moment donné, voilà, le bonheur de la rêverie, tout ça. Est-ce que c'est paresse ? Voilà. Déjà qu'on voit, j'aimerais bien savoir ce que c'est paresse. Voilà. C'est pas confusion.
Je vous laisse y répondre peut-être pour proposer des éléments. Évidemment, la perspective, c'est quand on s'attache à essayer de donner un sens à la notion de paresse, ça signifie qu'on donne un sens à la notion de travail.
Ouais.
Voilà. Est-ce que effectivement bouger toute la journée, déplacer des choses, comme vous l'avez dit, est-ce que ça c'est travailler ?
C'est travailler. Ouais.
Pardon. Je crois que vous leviez la main, non ?
Oui, mais ce n'était pas forcément pour répondre.
Non, mais allez-y.
Moi, la question de la paresse me renvoie à la question du sens du travail ou de l'activité, entre guillemets. Donc, effectivement, je pense que la paresse est... Enfin, ce qu'on appelle la paresse, peut-être, je ne sais pas, le fait de refuser peut-être de travailler, justement de se mettre en activité, je vois aussi plutôt ça comme une perte de sens à ce qu'on la société nous demande de faire, obéir par exemple, parfois, et du coup effectivement ça va être jugé, la paresse, hein, du coup comme c'est péjoratif, on va dire comme terme, c'est un jugement qui veut nous forcer à faire quelque chose sur lequel on n'a pas envie. Voilà.
Je vais te réagir peut-être avant de...
du terme, enfin, quand on parle de la paresse en général, on voit ça comme quelque chose de négatif. Seulement, la paresse, c'est aussi pour beaucoup un objectif. C'est-à-dire que plus on gagne d'argent, plus on devient riche, en général, moins on a besoin de travailler. Donc, pourquoi est-ce que nous, on se pose ce type de questions en se disant « la paresse, c'est mal », alors que pour beaucoup de personnes, c'est un objectif, justement, de ne plus avoir besoin de travailler. Donc, est-ce que la paresse, c'est lié au travail, ou est-ce que c'est plutôt lié à des passions personnelles ou des envies de faire des choses, ou de contribuer ? Pas la réponse.
Parce que on définit le travail de manière la plus générique possible, la plus large possible. Je vous laisse préciser cette esquisse-là. On définit le travail comme une activité qui est socialement utile. C'est ça le travail. Le travail, c'est pas n'importe quelle activité. C'est une activité qui a une utilité pour d'autres que soi. Soit directement, lorsque je vais faire un cours de philosophie auprès d'un certain nombre d'élèves, je suis socialement utile à d'autres que moi. En tout cas, c'est ce que j'ai l'illusion de croire. Ce pourquoi je suis rémunéré, etc., et récompensé en fonction. Donc soit directement, socialement utile, soit indirectement. On peut très bien dire que lorsque je m'attelle à une activité, une tâche ménagère, une tâche domestique, je travaille. Tout travail n'est évidemment pas réductible à l'emploi. Tout travail n'est pas forcément rémunéré ou sanctionné par un mérite économique. Il y a bel et bien un travail domestique. Lorsque je passe aspirateur, je travaille. Je travaille parce que c'est indirectement utile à d'autres que moi. C'est d'abord directement utile à moi. Je vis dans un appartement qui est plus propre qu'avant. Et indirectement à d'autres utiles, indirectement utile, soit avec pour les autres personnes avec lesquelles j'aurais à partager cet espace, soit pour des valeurs, on revient à la question des valeurs qu'on va appeler morales, sociales, pour l'instant soyons vagues, qui nous enjoignent d'être propre sur soi, d'être propre chez soi, vous voyez, de l'hygiène, etc. Où finalement, cette tâche domestique est encore quelque chose que je m'oblige à faire en vue d'une utilité sociale. Et donc, il me semble que l'une des raisons pour lesquelles la paresse est d'abord considéré comme un, sinon comme un péché, du moins comme un vice, en tout cas comme une tare ou comme un reproche. On reproche à quelqu'un de paresser, on reproche à quelqu'un de se laisser aller à sa fainéantise. C'est parce qu'en fait, on lui reproche de ne rien faire qui soit directement ou indirectement utile à d'autres que lui-même. On lui reproche finalement d'être une sorte de... Et on entend ça, il y a des discours comme ça quand même qu'on entend dans certains milieux politiques, économiques ou sociaux, d'être, avec plein de guillemets dans ma bouche, d'être un parasite. D'être un parasite, pendant que toi tu ne fais rien, tu profites du travail des autres. Et donc finalement, tu donnes sans redonner, et tu es débiteur, d'une certaine manière, à l'égard de ceux qui, eux, œuvrent, d'accord, pour le bien des autres. Et donc, voilà, c'est ça, à mon avis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réduit travail à utilité et paresse à souci de soi, ben en fait, on a déjà une réponse à notre question. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait surtout pas trop paresser ? Parce qu'en fait, il faut d'abord se consacrer au corps social dans lequel on est appelé à vivre. Que ce soit la famille, que ce soit une classe, que ce soit une entreprise, que ce soit une nation, que ce soit l'humanité.
Super. Vice, tare, péché, reproche, wow, ça fait peur. Hein. Moi, je m'interrogeais aussi, la paresse peut être aussi non permanente. On peut, moi ça m'arrive, hein, je l'avoue, j'ai péché, m'accorder des temps de paresse, ça fait du bien, sortir de l'agitation du monde, certaines philosophies non occidentale, orientale, disons, l'encourage. Peut-être aussi faire moins, mais mieux, Alors mieux, c'est très relatif, mais plus en ayant bien conscience de ce qu'on fait. J'ai pas dit en pleine conscience, mais donc voilà, la paresse n'est pas forcément continuelle. On peut être actif, travailler, il est évident que même si on n'est plus en activité, on a toujours une utilité dans la société, une place, j'en suis intimement convaincu. Même si après on peut être bénévole, non rémunéré, et on se sent utile. D'ailleurs, utile, il me semble qu'en philosophie, à une époque, j'ai un vieux souvenir, ce qui était utile, c'est ce qui était beau, je crois. Non, c'est pas quelque chose comme ça à une époque. Donc, pourquoi ça pourrait être utile dans le sens beau aussi, la paresse. Voilà. Donc, la paresse, en tant que pause, pause qu'on s'accorde de temps à autre, ça peut faire du bien. C'est mon avis.
Deux mains levées.
Est-ce que vous m'entendez? Du coup, ce terme de paresse, l'idée de ne rien faire est assez ambivalente parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on a un peu cette idée de paradis de la société. De parasites de la société qui profiterait du système en faisant rien, qui récupérerait de l'argent. Et à côté de ça, comme disait monsieur tout à l'heure par rapport aux riches qui pouvaient passer leur temps dans leur jacuzzi ou sur leur yacht. Et du coup, qu'on avait un petit peu cette idée de, à partir d'un certain temps, enfin, on est dans une logique peut-être un peu capitaliste où le temps c'est de l'argent et après, mais quand j'ai de l'argent, je peux m'acheter du temps, mais au final, ceux qui sont en haut de la société peuvent se permettre de ne rien faire et que c'est quelque chose de valorisé dans leur cas, alors que pour les personnes qui sont en bas de la société, qui profiteraient du système, là c'est négatif parce qu'elles ne font pas fonctionner le ressort économique ou des choses comme ça. Mais pourquoi dans un cas c'est acceptable, mais pas dans l'autre?
Très bien.
Oui, moi je voulais parler par rapport au travail, effectivement, qui est rémunéré ou qui produit de la richesse, et aux gens qui n'en produiraient pas parce qu'ils ne feraient rien ou qui s'est exclu. Mais je voulais m'interroger sur le travail de l'artiste. Je me disais, un artiste, a priori, souvent, est considéré comme quelqu'un qui fait rien, un peu un parasite. Et au bout d'un certain temps, je pense à Van Gogh, par exemple, on s'aperçoit qu'il a, pour reprendre ce que vous disiez, une réelle utilité pour l'ensemble de l'humanité, mais qu'on n'a pas vu à un moment donné et qui est considéré souvent comme quelqu'un justement qui fait rien, qui n'a pas du tout le même rythme que les autres, qui ne gagne pas d'argent, qui ne produit rien, ouais. Un marginal. Voilà. Après, bon, il y a toute la démarche de marchand d'art, après qui rentre à nouveau dans l'économie, la valeur marchande, etc., des tableaux ou de n'importe quoi. Et voilà, à l'origine, souvent, dans chaque société, au moment où l'artiste produit quelque chose ou réfléchit à produire quelque chose, il est considéré comme ne faisant rien. Et donc, parasite, inutile.
Et qui vit au crochet de...
C'est une expérience d'enfant. Je veux dire, quand j'étais enfant, je me faisais régulièrement gronder parce que je faisais rien. Et on me disait, mais tu peux pas rester comme ça, rien faire. Et je disais, mais je fais pas rien. Je choisis de rester tranquille et de regarder, d'écouter les grillons, de regarder passer les nuages. C'était un choix. À l'époque, je connaissais pas la pleine conscience et les notions qu'on n'a pas quand on est enfant. Et j'avais cette idée que c'était important. Ou bien on peut faire quelque chose, ou bien on peut être. Simplement être.
Très bien. Monsieur et puis madame.
Alors, moi, il me semble qu'il y a un aspect moral qui est très très fort et qui doit être très ancien, puisqu'on trouve ça un peu dans toutes les philosophies, dans toutes les religions, l'idée que l'effort est valorisé. Et parce qu'on l'opposait au travail, la paresse, mais on peut l'opposer à l'effort plutôt. Hein. Il me semble que c'est plus ça le bon antonyme. et ou au courage aussi. Le paresseux, c'est quelqu'un qui manque de courage et qui n'est pas bon, qui peut être inutile socialement. Et pourtant, la paresse, elle est créative. La paresse, c'est un gros moteur. C'est-à-dire que celui qui a inventé la roue, c'était un gros feignant, parce que c'était quand même vachement moins... Ça demandait beaucoup moins d'efforts de trimballer des trucs sur une charrette avec des roues que de les porter sur son dos, etc. Donc, une moissonneuse-batteuse, c'est un truc de feignant par rapport à la faux. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, la paresse, la recherche du moindre effort, donc l'effort étant valorisé, et pourtant, on recherche... Et c'est un moteur de la société, c'est un moteur de progrès, on recherche le moindre effort. Donc c'est un truc qui me semble complètement paradoxal. Pourquoi on valorise toujours autant l'effort alors que la paresse est créative moi je me souviens, étant plus jeune, je travaillais sur un chantier et j'avais des appareils à monter, des appareils électriques, et j'en avais une centaine à monter avant de les accrocher au plafond. Et je m'étais installé un petit poste de travail, j'étais assis tranquillement, et mon chef passe et me dit « Ah bah tu te fais pas chier, tu travailles assis toi ». Donc voilà, j'étais paresseux, je faisais le même boulot, peut-être même plus efficacement, mais pour cette personne, il y avait un truc de pas bien, un truc d'immoral, quoi, à être comme ça. Et aussi, pour rester dans les trucs qui me... dans mes data aussi, penser aussi que l'obéissance... c'est-à-dire reproduire la même chose, c'est une forme de paresse, et que la liberté demande beaucoup plus d'efforts que la paresse. Donc ça, c'est peut-être une voie qu'on peut explorer aussi ce soir. Voilà. Et puis sinon, je suis retraité, je vous le recommande. Hein. Pour les feignants, c'est vachement bien.
Là, c'est bon ? Oui, c'est bon. Je vais faire référence à un livre que je n'ai pas lu, mais... certains d'entre vous connaissent, c'est Le droit à la paresse de Paul Lafargue.
Mais il se trouve que par hasard, je l'avais dans ma sacoche, parce que je faisais cours dessus ce matin. Et...
ah oui.
Voilà. Ah ouais. Je me permets d'en lire un petit moment.
J'en dirai pas plus. Hein, je
vais dire. Donc on est avec un texte, effectivement, qui est vraiment très très beau, c'est un très beau texte, de Paul Lafargue. Paul Lafargue, pour la petite anecdote, c'est plus qu'une anecdote, parce que ça a son importance. Il fait partie de la famille de Karl Marx. C'est l'un des gendres de Karl Marx. Parce que Marx a eu plusieurs fils, je ne me rappelle plus combien. Enfin bref. Et donc, on imagine que autour du repas, ça pouvait un petit peu discuter, débattre sur quelle place on accorde au travail, puisque Marx fait du travail le socle même de l'existence humaine. Et Lafargue, vous allez voir, donc invite. On est en 1880. Donc on est en pleine révolution industrielle, Zola, etc. Germinal a revendiqué non pas un droit au travail, mais un droit à la paresse. Et voici comment il ouvre son texte. C'est la quatrième de couverture, mais ce sont les premières lignes du bouquin. Une étrange folie. Une étrange folie possède les classes ouvrières, les nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales, qui depuis deux siècles torture la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Etc. etc. Et ensuite, il décline un programme politique où il nous invite à deux choses. Je ne vais pas transformer ça en cours, le cours de ce matin, ça n'a pas d'intérêt, mais il y a deux éléments quand même qui sont décisifs. Premier point, une réduction drastique du temps de travail. En gros, il nous dit un jour, pour lui, un jour, c'est demain. On sera dans une société dans laquelle nous pourrons travailler 3-4 heures par jour, maximum. C'est-à-dire suffisamment pour reproduire nos conditions d'existence, de reproduire ce que Marx appellerait notre force de travail. Et puis, il nous dit, mais en fait... ce que je suis en train de vous décrire, ce n'est pas une utopie, c'est la réalité. Et il termine ainsi. Excusez-moi, je n'avais pas prévu de me transformer en citation de Paul Lafargue ce soir. Il nous dit, il y a Aristote, il cite à un moment donné Aristote, et Aristote, il fait un rêve. Il nous dit, si par exemple les navettes des tisserands tissaient d'elles-mêmes,
Donc c'était automatique, ces navettes des tisserands, ce qui évidemment à l'époque d'Aristote est inimaginable. Si par exemple les navettes des tisserands tissaient d'elles-mêmes, le chef d'atelier n'aurait plus besoin d'aide ni le maître d'esclaves. Et il termine son droit à la paresse. Le rêve d'Aristote est notre réalité. Nos machines, alors c'est très allégorique, hein. Nos machines au souffle de feu, aux membres d'acier infatigables, à la fécondité merveilleuse inépuisable, accomplissent docilement d'elles-mêmes leur travail sacré. Et cependant, le génie des grands philosophes du capitalisme reste dominé par le préjugé du salariat, le pire des esclavages, le travail. Ils ne comprennent pas encore que la machine est le rédempteur de l'humanité, donc on l'emploie ce vocabulaire religieux sacré. Ils ne comprennent pas encore que la machine est le rédempteur de l'humanité. Le Dieu lui rachètera l'homme des sordida artes, des travaux sordides, et du travail salarié, la machine, ce Dieu qui donnera des loisirs et de la liberté à l'homme. Et finalement, il nous dit, regardez, ce n'est pas une utopie. Pourquoi est-ce que les Grecs et les Romains avaient-ils des esclaves? Pour ne pas avoir à travailler. C'est-à-dire que l'esclave n'est pas un homme, non pas parce qu'il est esclave par nature, l'esclave n'est pas un homme, parce qu'il est condamné au travail. Le travail, c'est la part dans le vocabulaire d'un Paul Lafargue, la plus vile de notre humanité. C'est je travaille pour manger, je travaille pour avoir un toit, je travaille finalement pour reproduire ma force de travail, pour satisfaire mes besoins vitaux. Finalement, quand je travaille, je ne suis rien d'autre qu'un animal parmi d'autres qui vise simplement à reproduire mes conditions d'existence. Donc l'esclave, parce qu'il travaille, n'est pas un homme. Le maître est un homme libre, puisque précisément il a des esclaves à son service, à qui il va pouvoir déléguer cette fonction la plus vile. Et le maître Aristote, qui avait 7 ou 8 esclaves selon la légende, peut philosopher. Pourquoi si Aristote peut philosopher? Pourquoi est-ce qu'il peut s'asseoir et débattre? Parce que d'autres bossent pour lui. La légende veut que Aristote ait affranchi ses esclaves quelques jours avant sa mort en disant « Merci d'avoir travaillé pour moi, j'ai plus besoin de vous. » Voilà, au revoir. Et ce qu'on comprend à travers Lafargue, mais c'est évidemment pas le seul, mais c'est l'un des premiers au XIXe siècle, en tout cas dans la culture occidentale, à écrire de manière aussi claire, c'est que la révolution technologique, industrielle, que Lafargue est en train de vivre et que nous vivons encore plus que lui, devrait faire de nous des hommes libres. Est-ce qu'il faut paresser? Mais bien sûr. Pourquoi aller perdre son temps à travailler si la machine peut le faire pour moi? Pourquoi perdre son temps à laver son linge à la main si la machine à laver le fait pour moi? Pourquoi perdre son temps à tondre son gazon si jamais on fondait son gazon, si pas faire, parenthèse. Si j'ai une tondeuse automatique qui va tondre pendant que je suis en train de philosopher. Pourquoi perdre son temps à monter des caisses et des caisses si des robots peuvent le faire pour moi? Et c'est à ça, vous voyez bien que finalement, les machines sont nos esclaves. Ils nous obéissent au doigt et à l'œil. Et en plus, le grand avantage de ces machines, c'est que, mis à part les coûts de fonctionnement et de réparation, ben en fait, les machines, il y a un gain de temps, surtout une machine, ça ne dit rien. Ça ne proteste pas, et vous évoquiez cette idée d'obéissance, une machine, ça reproduit mécaniquement ce pourquoi elle est programmée comme tâche servile. Et donc finalement, ce que nous laisse comprendre Lafargue dans son droit à la paresse, que vous avez évoqué, madame, c'est que si nous continuons, nous, modernes, ou post-modernes, je ne sais pas comment on pourrait se qualifier, à passer l'immense majorité de notre temps d'existence au travail, c'est parce que le travail, c'est bien plus qu'un moyen en vue de reproduire les conditions sociales d'existence, c'est bien plus qu'une activité socialement utile. Et vous avez un peu évoqué cela tout à l'heure. Le travail, c'est une valeur. On a érigé le travail, non pas comme un moyen, le moyen de vivre, mais comme une fin. C'est-à-dire, de sorte que... Je suis déjà en train de faire la conclusion, il faudrait peut-être pas... De sorte que... Non, mais c'est vrai. Enfin, donc c'est des trucs qui me tiennent à cœur. De sorte que, finalement, mais on ne travaille plus pour vivre. Ça devrait être ça, normalement. Je bosse 3-4 heures et puis je vis. On vit pour travailler. On vit pour travailler. Et on attend la fin de la journée, et on attend le week-end, et on attend le bonheur de celles et ceux qui sont déjà à la retraite. Et finalement, c'est bien ça. C'est-à-dire que derrière cette injonction à travailler, derrière cette injonction à ne pas paresser, ce loin inquisiteur qui nous dit « bouge-toi les fesses, reste pas assis, fais des efforts, sois utile », ce qui se joue derrière, ce sont des valeurs morales. Ce sont des valeurs. Quand on érige le travail comme valeur, ben en fait, on condamne toute une population à être l'esclave d'elle-même. Excusez-moi, je suis un petit peu emporté.
Il y a un endroit où c'était écrit « le travail rend libre ». C'est
moi, je voulais rajouter aussi quelque chose. Le travail, on dit que c'est la santé.
Alors.
Voilà, c'est ça. Et on a besoin de travailler pour exister, et puis par rapport à la société actuelle.
Alors peut-être qu'il faut peut-être prendre cette phrase au sérieux. Parce que là, on a un petit peu tapé sur la tête du travail et de celles et ceux qui s'y emploient, comme nous. Peut-être qu'effectivement, le travail, c'est la santé. Peut-être que le travail, c'est bien plus qu'une corvée ou un labeur auquel on s'astreint malgré soi, parce qu'il faut bien gagner sa croûte. Vous levez la main, on vous donne le micro. Voilà.
Justement, après le développement que vous avez fait sur le travail et les machines, on ne peut pas réfléchir à la valeur travail sans parler de la répartition des richesses produites par ce travail.
Effectivement, derrière, on va peut-être y revenir, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a aussi un arrière-plan social et économique. C'est-à-dire qu'effectivement, on reproche rarement à un rentier très très riche de ne pas travailler.
Justement, ma réflexion évolue par rapport aux discussions. Évidemment, donc, quand on parle de travail, il y a travail. C'est-à-dire, le travail qui vaut le coup, c'est le travail dans lequel on s'accomplit. C'est-à-dire le travail où on peut progresser autant mentalement, socialement, voilà un travail qui vaut le coup, parce que il y a un développement personnel dans le travail qu'on fait. Il y a des travails où on est plutôt avili, c'est-à-dire un travail qu'on fait, et finalement on travaille en ruinant sa santé, et on ne progresse pas socialement, et souvent arrivé à la retraite, on n'en arrive même pas à en profiter puisqu'on meurt, parce que le travail nous a apporté que beaucoup trop d'efforts et pas en profiter quand on arrive à la fin de sa vie. Quoi.
De la souffrance, en fait.
La souffrance. Et ça, ben, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à savoir ce que c'est travailler. Parce que travailler, accomplissement, je veux bien. Travailler pour se ruiner la santé, on dit le travail c'est la santé, mais je crois pas. Hein. C'est pas partout le travail, la santé, c'est pas pour tout le monde. Hein. Et pour d'autres, c'est pas vraiment la santé, le travail. Et puis le travail de l'artiste, par exemple. Bon, moi, je vais donner mon cas. Voilà, je préfère que je me réfère à moi parce que j'ai réfléchi aussi par rapport à ce qui s'est passé. Je l'ai travaillé pendant un bon moment. Et dans le cadre de mon travail, j'ai la possibilité d'avoir un congé de fin d'activité. Ben, j'en ai profité évidemment. Et en même temps, à côté pour m'accomplir, parce que comme le travail ne m'apportait pas un développement personnel, j'avais à côté un autre. Je suis artiste de l'autre côté, c'est ce qui m'a porté un accomplissement personnel. Donc je suis auteur, compositeur, interprète. C'est ce qui m'a permis personnellement de m'accomplir. Et je me rappelle encore à l'époque, quand je voulais quitter le travail que je faisais, parce que je trouvais que c'était un travail avilissant, donc c'est un plan personnel, je fais un congé civil, on m'a expliqué que ou alors vous acceptez de travailler pour gagner votre pain, et à côté, faire votre passion. Il ne peut pas vous rapporter de l'argent, mais plutôt il va vous apporter un côté développement personnel. Voilà l'équilibre qu'on peut avoir entre le travail et puis un travail qu'on peut considérer paresseux, mais qui plutôt vous apporte un développement personnel. Voilà, c'est le compromis entre les deux. Mais je crois qu'il n'y a pas un travail qui est bien et puis une paresse qui est mauvaise. Non, c'est plutôt un compromis entre les deux qui peut nous apporter quelque chose de beaucoup plus positif. Hein.
Madame, vous vouliez intervenir tout à l'heure et puis. Peut-être, madame, oui. Vraiment, vous voulez intervenir. Attends.
J'ai trois personnes, il y a une question.
Si, ça marche, allez-y.
Moi, je trouve que quand on dit le travail, il y a tellement de sortes de travail différents. mon cas personnel aussi, j'ai travaillé très longtemps et c'est un travail qui me plaisait, ça ne m'a jamais pesé, j'ai toujours été même en bonne santé. Je ne travaille plus et je trouve maintenant ce qu'on appelle, enfin pour moi ce n'est pas du travail, des activités. C'est sûr, pour moi la paresse, enfin, ne pas travailler, enfin, ça dépend de ce qu'on appelle le travail. Il y a des, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas toujours le choix, qu'on est des fois obligé de travailler, qu'on n'a pas eu la chance de peut-être faire des études pour faire un travail qui nous aurait plu, qu'on est obligé d'aller, comme certains, dans les usines. Tout. Enfin, je trouve que c'est très large quand on dit le travail, parce qu'il y a des travaux, du travail qui peuvent réjouir. Moi, je connais même dans ma vie, enfin dans ma famille, des gens qui travaillent, mais ils sont heureux de faire leur travail. J'ai ma nièce qui va être une future chirurgienne, mais elle est heureuse de faire ce qu'elle va faire. Donc, je trouve que ça dépend le travail qu'on fait ou qu'on fera. Et voilà.
Merci. Ah, oui. Et puis, d'accord, oui.
Du coup, en effet, il y a plein de formes de travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, quand on voit un petit peu de manière classique, on sectorise entre secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. On voit que le secteur primaire et secondaire, donc exploitation des matières premières et puis l'industrie, si je me souviens bien, c'est quand même quelque chose qui a été de plus en plus abandonné, puisque justement, avec l'essor de l'industrie, y a des choses, on travaille quand même un peu moins à la chaîne. Aujourd'hui, on est quand même plus dans du secteur tertiaire. Et c'est vrai que y a un terme qui est apparu dernièrement qui s'appelle les « bullshit jobs ». Donc, je sais pas si c'est en gros les boulots qui ne servent à rien. Alors, pour avoir bossé dans l'informatique pendant pas mal d'années, on est quand même sur. Il y a une construction d'une hiérarchie sociale au sein des entreprises qui est quand même basée sur une forme d'inutilité tout en se faisant passer pour un travail. Quand on cumule les réunions qui servent à rien et qu'on fait des PowerPoints pour préparer les autres réunions, des réunions. Enfin, vraiment, on est dans un truc où, en plus, il y a énormément d'intermédiaires. Il y a des gens qui ne font que gérer des personnes qui sont gérées par d'autres personnes. Il y a quelque chose d'une couche de salariés comme ça qui finalement, ça semble être quelque chose d'extrêmement artificiel, comme si on avait besoin que, pour tenir la société, c'est l'hypothèse que je donne, il y ait besoin d'avoir cette construction de il faut qu'on mette les gens à faire quelque chose, on va pas les laisser réfléchir, on va pas laisser créer des choses, mais il faut qu'ils s'inscrivent quelque part, qu'ils aient une utilité quelle qu'elle soit, ils vont gagner de l'argent, mais on sait pas trop si ça sert à quelque chose, mais au moins, ils restent là, et puis ils font des trucs qui ne paraissent pas, même si ça n'a pas d'utilité. Et je pense que toute la crise de sens de pas mal de personnes, eh ben, elle peut être aussi liée au fait que, mais il y a certains boulots, je suis désolée, en tout cas dans l'informatique, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans ce domaine, mais qui ne servent franchement pas à grand-chose.
Et parce que, je me permets juste de reprendre la parole. Ça marche pas, non ? Oui, ça marche ?
Il paraît que...
Ah, j'ai l'impression que... Non ? Ça marche pas, hein ? Bon. Bon, c'est étonnant. Bref, oui, simplement pour dire, j'ai essayé de parler fort pour que tout le monde entende. Ce sur quoi vous mettez l'accent, c'est finalement le caractère identitaire du travail. C'est-à-dire que le travail, non seulement c'est une occupation... Vous l'avez très bien évoqué, mais c'est aussi un statut. C'est-à-dire que la première question que l'on pose à quelqu'un que l'on rencontre, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et le « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», votre interlocuteur, votre interlocutrice ne va pas répondre « je vais en bord de Loire observer Léon ». Votre interlocuteur, il va se définir, et vous attendez qu'il se définisse par son statut professionnel. Donc, je suis professeur de philosophie dans le secondaire au lycée Jean-Zé d'Orléans. Ah, d'accord, c'est intéressant. Et donc, finalement, c'est ça, c'est-à-dire que non seulement il y a une fonction statutaire identitaire, mais que chacun reprend pour lui-même. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il faut savoir pour être, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire quelque chose pour être. et que je ne peux pas me définir moi-même comme n'étant pas professeur de philosophie du secondaire, etc. Finalement, comme si finalement, vous voyez, c'est, ça fait partie, c'est une sorte de, c'est consubstantiel de ma nature, comme une sorte de seconde nature. Voilà, depuis le temps que je suis professeur de philosophie, j'ai l'impression que, en fait, c'est moi, quoi. Qu'est-ce que je suis, moi ? Moi, je suis professeur de philosophie, je suis pas pâtissier, je suis pas patineur sur glace, je suis professeur de philosophie. Et donc, finalement, paresser, si on revient à la question de la paresse, c'est peut-être refuser d'être catégorisé dans un statut. C'est, vous parliez à un moment donné de liberté, c'est une forme de divergence. Vous voyez, on va diverger par rapport à des codes, par rapport à des normes, par rapport à des attentes sociales, en disant, mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, les élèves, quelques élèves ici présents, je les remercie, alors voilà, ils sont dans l'orientation, on demande, mais qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, et qu'est-ce que tu, dans quel métier tu te projettes, etc. On leur demande pas, mais quelle est la sortie en bord de Loire que tu as projeté de faire la semaine prochaine ? D'accord ? C'est, voilà, voilà. Et donc finalement, dans quel type de catégorie sociale tu voudrais que ton identité soit enfin classée ? Et quelqu'un qui vous dirait, ben, moi non, en fait, je veux rien faire. Enfin, je veux rien faire qui soit ce que vous appelez, vous, un travail. Ben, on sera peut-être considéré un peu comme marginal, un peu comme étrange. Et le professeur que je suis, il dira, mais non, en fait, tu ne peux pas passer ton temps à peindre et à regarder les ronds au bord de Loire. Tu vas faire ton BTS, ta classe prépa, ton université. Enfin bref, tu vas apprendre un métier, quoi.
Pardon. Je vous donne le micro. Ah, puis il y avait aussi madame qui voulait prendre la parole.
Du coup, ce qui est vraiment intéressant dans cette démarche, c'est de se dire, mais finalement, la paresse, est-ce que ce n'est pas l'absence d'identité dans la société actuelle ? Est-ce que ce n'est pas l'idée, justement, de ne, comme on disait, de ne servir à rien ? Mais si on ne sert à rien, est-on toujours quelqu'un ? Si je ne suis personne, quel est mon avenir ? Donc, si je ne fais rien, je n'ai pas d'avenir. Et c'est peut-être ça, du coup, aussi, l'idée qu'on peut apprendre à l'école, que l'on récupère même au travail. C'est que si, par exemple, je n'ai pas un diplôme, si je ne travaille pas, si je suis loisif, je n'ai pas l'acquis pour avoir une identité future. L'identité qui se résume souvent à un travail, et un poste et une fonction. Donc si je n'ai pas de fonction, je ne sers à rien, donc je ne mérite pas d'être présent. Et du coup, ça amène une autre question encore, c'est pourquoi doit-on avoir ça ? Pourquoi est-ce que je me résume par ça ? Et quel est le conditionnement initial que l'on a ? Par qui aussi ? Pas que les parents, mais aussi par la société. Qui a mis ça en place pour que l'on s'active dans ce sens-là ? Où nous sommes clairement parmi les seuls à faire ça. Tout le monde, à partir d'un certain niveau de richesse, les gens n'ont plus cette pensée-là. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas une manipulation pour nous obliger à penser comme ça ?
Ça m'a amené à m'interroger sur toute une problématique en tant que jeune, et effectivement sur ce truc de choisir son avenir et choisir ce qu'on veut faire. Les travails passion, enfin ce qu'on appelle travail passion, et les gens qui s'occupent, enfin qui gagnent leur vie comme ça, est-ce que ça inverse un peu ce rapport de, est-ce que du coup finalement ce qu'on avait l'habitude de faire pour paresser, ça devient du travail, ou inversement, est-ce que le travail devient quelque chose de paresseux du coup? Et j'ai pensé surtout à un film, c'est Whiplash de Damien Chazelle, où c'est un musicien qui est très passionné, qui veut en faire son métier, et qui finit par s'acharner. Et toute la problématique du film, c'est de savoir est-ce qu'on peut s'acharner comme ça sur notre passion, et du coup ça en devient dur physiquement, mentalement pour lui. Voilà.
Je me permets juste encore de reprendre la parole 10 secondes, pas beaucoup plus. À mon avis, il y a un terme intermédiaire peut-être qu'on pourrait introduire entre la paresse et le travail, c'est l'oisiveté. Et il me semble que paresse et oisiveté ne sont pas, synonymes, loin de là. Dans la notion d'oisiveté, il y a l'idée de se consacrer à des activités, il y a l'idée d'activité, et de se consacrer à des activités qui, pour une raison ou pour une autre, seront reconnus comme des activités qui nous accomplissent, dans lesquelles on s'y retrouve. C'est pour ça que vous aviez parlé de l'artiste, en disant, ben voilà, j'étais j'étais heureux, heureuse au travail parce que finalement, ce travail-là, il avait du sens pour moi, j'y trouvais une raison de vie, j'y trouvais un accomplissement, j'y trouvais une sorte d'achèvement de ma propre personne. Et finalement, être oisif, c'est laisser les travaux qu'on considère comme étant mécaniques ou asservissants ou source de souffrance à d'autres, soit des machines, soit d'autres personnes que soi, pour finalement se consacrer uniquement à ce qui nous semble, comment dire, humain, ou en tout cas propre à notre personnalité. Alors que dans la notion de paresse, il y a l'idée de ne rien faire. De ne rien faire, de... Voilà. Non, je n'irai pas m'inscrire dans cette association. Non, je n'irai pas dans ce club de randonnée. Enfin bref, vous voyez. Je serai là, chez moi, à rien faire, à paresser. Et finalement, on a l'impression que autant la paresse serait, c'est pas ce que je pense exactement, c'est trop personnel, mais peu importe, autant la paresse serait socialement condamnable et gênante, voire même inacceptable, en disant mais tu ne peux pas ne rien faire, autant, effectivement, la vie heureuse, ça serait celle, c'est ce que vous avez évoqué, qui arriverait à combiner, l'utiliser l'agréable, hein, qui arriverait à combiner les injonctions économiques et sociales du travail, donc cette forme d'utilité, de règles aussi qu'on s'impose et qu'on impose à d'autres, un emploi du temps commun, etc., bref, qui arriverait à combiner et le travail avec tout ce qu'il implique de contraintes et l'oisiveté avec tout ce que ça implique de désir, de plaisir, d'accomplissement de soi. Et que finalement, un travail serait un travail pleinement humain si on pouvait le considérer comme un jeu. Si on pouvait le considérer comme un jeu. Or, le jeu se distingue du travail sur deux points. Premier point, le jeu, c'est la quête du jeu, c'est le plaisir, c'est l'intérêt qu'on a à jouer. C'est pas l'utilité, on n'a aucun intérêt à jouer. Si ce soir vous jouez aux échecs, en fait, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps au sens où ça n'est pas utile. Donc, un, c'est l'intérêt par rapport à l'utilité sociale du travail. Et deux, c'est la liberté dont on dispose dans le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a des règles, évidemment, il n'y a pas de jeu sans règles. Mais ces règles, on peut, vous voyez, soit les contourner, soit s'entendre pour en changer. Alors qu'au travail, on a l'impression que, bah, en fait, j'ai un emploi du temps, j'ai des règles, mais que ces règles, elles s'imposent en moi et malgré moi. De sorte que je me force à travailler même si je n'en ai plus envie. Il faut bien que je corrige mes copies. Mais c'est vrai, il faut bien que je les corrige. Donc, de sorte que je me force à travailler même si ça m'ennuie, alors que quand j'ai plus envie de jouer, j'arrête. Et donc peut-être qu'un travail qui serait un travail pleinement oisif, c'est une sorte d'oxymore, un travail qui arriverait à joindre cette utilité, ce côté agréable, ça serait un travail qu'on puisse considérer comme un jeu. Ça ne serait pas exactement de la paresse.
Oui, moi je voulais revenir par rapport à ce que... À ce que la dame disait tout à l'heure sur l'éthique de travail, c'est-à-dire qu'on peut prendre du plaisir à travailler, ça rejoint un peu ce que vous dites, si le plaisir, enfin le travail est un jeu, un peu comme ça, parce qu'on on se sent libre de faire son travail et il nous apporte aussi. Et du coup, je voulais rebondir sur le statut de retraité, justement, parce qu'il y a un certain nombre ici, et on entend toujours dans la société deux discours, en fait, ah, t'as de la chance d'être en retraite, oh là là, vivement la retraite. Et puis aussi que le retraité, c'est un parasite. Donc c'est un peu paradoxal. Et je pense que cette paresse obligatoire ou cette oisiveté obligatoire n'est pas forcément source de bonheur. Et que ça dépend aussi de la pénibilité du travail. Ça dépend de peut-être les études qu'on avait faites qui ont permis de faire un travail qui nous plaisait, mais pas seulement. Je pense qu'il y a des métiers qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d'études qui sont très enrichissants et que les gens sont contents de les faire. Je pense quand même qu'on est quand même dans une lecture du travail forcément marxiste, c'est-à-dire que le travail asservi, et c'est tout, asservi l'individu, le rend un esclave, etc. Bon, certes, ça peut être vrai, mais je pense qu'il y a toute une dimension du travail quand même qu'il faut admettre, qui est de s'accomplir, ça a été dit un petit peu, qui est d'arriver à faire des choses qui font plaisir, tout en fournissant des efforts, en n'étant pas ni dans l'oisiveté ni dans la paresse, et qui fait que quand on est dans le statut de retraité, quand vous disiez, quand on demande aux gens « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», il faut dire son métier. Mais quand on est retraité, on dit qu'est-ce que tu fais? On dit je suis retraité. Ben non. Non. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je dis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis retraité. Ben je ne sais rien sur lui quand il me dit ça. S'il me dit j'étais professeur de philosophie, j'étais maçon, etc., voilà. Qu'il soit retraité, je m'en fiche complètement. Parce que ce n'est pas sa valeur qui est dans la retraite. Et je trouve que cette espèce de... Alors avec la réforme des retraites, tout ça, tous ces gens dans la rue pour défendre la retraite, moi je suis peut-être à contre-courant, mais je dis que c'est bien qu'il existe le régime des retraites, qu'il y ait toute cette construction sociale. Mais il ne faut pas être au rebut de la société parce qu'on est en retraite. Il faut pouvoir continuer à travailler si on n'a pas envie d'être en retraite. Et il faut aussi, du jour au lendemain, quand on sort de sa retraite, on prend sa retraite, quel jour à telle heure, on pose son crayon ou son outil, on rentre chez soi, c'est comme si on n'avait plus aucune compétence, aucune utilité, aucune reconnaissance. C'est dramatique.
Non.
Alors, on garde le tour de parole.
Il y a une monsieur. Tout ce que je voulais dire a été dit, mais bon, par rapport à la reconnaissance d'une personne par son travail, ça c'est vrai qu'au niveau du poids de la société, c'est flagrant qu'une personne en grande majorité sa reconnaissance passe par son travail, alors que on sait très bien que de toute manière une personne ne se résume pas à son travail, mais bon, dans la société, le poids de la société au niveau des statuts sociaux, c'est énorme. Moi, je prends mon exemple quand juste au moment où j'avais fini mes études, et je me suis retrouvé sans emploi. Et dans mon entourage, il y avait une espèce de condescendance à mon égard, parce que je ne faisais plus rien. Et je dois l'avouer, mais après je devais aller à l'armée, donc en fait j'avais quand même... Mais j'ai une période de 6 mois où j'ai attendu, et j'ai un peu honte de le dire, j'ai jamais été aussi heureux.
Il n'y a pas de honte. Hein.
Ouais. Pendant cette période, ouais. Alors que tous les regards de mon entourage m'ont regardé d'un air éberlé. Et moi, je n'avais pas honte de le dire, mais je suis heureux. Parce que, bon, bien sûr, et quelque part, dans ma tête, je m'étais dit, mais toute ma vie, je pouvais pas, mais j'avais pas assez d'argent. Mais je m'étais dit, toute ma vie, je resterai comme ça à la pêche, à glander. Ça aurait été merveilleux. Mais ça aurait été merveilleux. Mais par contre, la reconnaissance professionnelle, le poids de la reconnaissance professionnelle, c'était trop lourd. J'avais une chape de plomb sur ma tête. Et par contre, quand je suis venu à la retraite, quel bonheur j'ai retrouvé. J'ai retrouvé parce que j'avais le statut social du retraité. Et là, par contre, il n'y avait plus cette condescendance. Le regard était plutôt bienveillant. Donc le statut social est quand même très fort dans notre société.
Juste une parenthèse, je vous conseille, dans la lignée de votre témoignage, vous avez un vieux documentaire qui date de 2003, qui s'intitule de Pierre Carles. C-A-R-L-E-S, Pierre Carles, qui s'intitule « Attention, danger, travail », qui est un documentaire que je trouve extraordinaire. J'en passe toujours un extrait, quelques extraits aux élèves, même s'il date d'il y a 20 ans, où Pierre Carles va à la rencontre de ce qu'il appelle dans le documentaire « les déserteurs volontaires du marché du travail ». C'est-à-dire des jeunes gens qui, à un moment donné, avec des profils assez variés, disent « non, en fait, c'est un peu votre expérience, vous, c'était pas la désertion, c'était... un facteur de non-emploi, mais donc des gens qui se disent en fait non, j'irai plus bosser, et qui expliquent les raisons pour lesquelles non, tu vas pas trouver un travail, tu vas pas gagner, non, voilà. Et donc un long documentaire qui dure 1h30, dans lequel voilà, on va vraiment rencontrer ces personnes et où finalement ils nous interrogent, c'est ce que vous venez de dire, sur la valeur même de l'activité de travail, en disant mais moi j'ai jamais été aussi heureux que quand le jour où j'ai décidé de plus retourner bosser. Quoi. Alors tu vis de quoi? Ils le disent, hein, à l'époque c'était le RMI. J'ai dit, en fait, il n'y a pas encore de RSA, etc. Mais je vis du RMI. Hein. Point.
Oui. Moi, je vais revenir sur deux petites choses. Dans l'éducation populaire, par exemple, le milieu d'où je viens, on évite de demander justement à quelqu'un quand on le rencontre et qu'on a, on s'intéresse à lui, du coup. On évite de lui demander quel est ton travail, mais plutôt qu'est-ce qui t'anime. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie.
Qu'est-ce qui t'anime.
D'accord. Ouais. Et je trouve que c'est important de cette distinction. Et j'essaye moi-même, quand je rencontre quelqu'un, de ne pas lui demander son travail, mais de lui demander quels sont ses centres d'intérêt, qu'est-ce qui l'anime dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'il se lève et qu'est-ce qui, en fait, le personnalise lui en tant qu'il est. Et pas forcément, effectivement, son travail, parce que c'est très discriminant, parce que bah, y en a qui n'en ont pas, il y en a qui n'aiment pas leur travail, etc. Et pourquoi on s'identifierait au poste sur lequel on travaille. Ça, ça a été la première chose. Et la deuxième chose, parce que ça m'a, moi aussi, j'ai connu des longues périodes de chômage, etc., que j'ai pas forcément subi. Je pense qu'il y a la notion de subir, en fait, dans tout ça. Ça m'énerve le plus. Le mot qui m'énerve le plus, c'est l'insulte de feignant. Donc, il est connoté par S, hein, pour moi, etc. Et on essentialise, en fait, des individus. Voilà. On essentialise à une période donnée de leur vie où peut-être ils n'ont peut-être pas de rôle social, les travailleurs ou quoi que ce soit, ou une période de repos, ou en tout cas de non-volonté d'aller dans un système que, et qui ne dure pas toute la vie en fait. Enfin, on n'est pas un feignant. On fait des choses. On refuse peut-être de travailler dans un système capitaliste par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'on glande toute la journée, en fait. Moi, je n'en connais pas. Il faut arrêter cette mystification, là, un peu, des médias, des politiques qui disent que les gens ne font rien de leur journée. Je n'en connais pas. Et voilà.
Moi, je voulais revenir sur ce que Franck disait, quoi. Quand tu vois quelqu'un qui ne demande pas, ça m'énerve un peu quand je vois des gens qui, la première chose qu'ils font, c'est un métro. Dans les heures qui suivent, demander ce qu'ils faisaient comme boulot, quoi. On ne juge pas les gens par rapport à leur travail. On ne juge pas les gens. On apprécie les gens par rapport à ce qui nous renvoie à leurs valeurs, et pas à leur métier ou à leur travail. C'est une chose. C'est de la mienne vie pour moi. Et puis aussi, je disais que si les gens avaient un revenu minimum, ils demandaient tout. Il y en a qui sont... qui pourrait s'en suffire, enfin voilà, qui s'en suffit, c'est tout, donc c'est l'oisiveté ou de la paresse, on l'appelle son vœu, voilà. Après, les gens qui veulent gagner plus d'argent, ben, ils travaillent plus, mais ça serait bien qu'on donne un minimum d'argent à tout le monde pour que les gens qui ont envie, je n'ai pas le mot paresse, quoi, mais qui ont envie de faire autre chose, se donner dans autre part, que dans un travail, c'est peut-être une valeur, enfin, quelque chose de social,
Ouais. On reviendra peut-être sur le revenu universel parce qu'effectivement ça pose la question de la valeur ou de la place qu'on accorde au travail entendu comme emploi ou comme activité en tout cas économiquement rentable dans une existence. Madame, oui.
Moi je voulais parler des retraités en sachant que, et je le suis, c'est la majorité qui sont dans toutes les associations. Je ne sais plus combien, mais le pourcentage est de genre 80%. Et j'en suis une aussi. Et je connais bien Percar parce que dans une de mes associations, on le fait souvent venir. Mais j'avais une autre réflexion par rapport à ce que vous dites tous. Vous parlez de l'individu, paresseux, pas paresseux, qui travaille. Moi, je trouve qu'on vit plutôt dans une société. Hein, nous sommes déjà là, quelques-uns. Et l'individu se définit également dans une société. Et que la paresse, bon, moi je préfère l'éloge de la paresse, c'est un autre auteur dont j'ai oublié le nom, mais il est mort il y a 20 ans ou 30 ans même.
Je connais, il y a l'éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell.
Non, c'est pas celle-là. C'est quelqu'un sur Christophe Bouteiller a écrit il habitait dans le Marais. À chaque fois j'oublie son nom. Bref, il a été très connu dans ma génération. Et donc, voilà, moi je trouve que l'histoire de la paresse, bon, alors je ne vais pas remonter à la Bible d'abord parce que je n'y connais rien et que je ne suis pas croyante, mais pour moi la paresse est aussi dans le monde, dans la société dans laquelle on est, c'est-à-dire au milieu du monde que, dans lequel on est. Et bah, la paresse va avoir droit de cité, et puis voilà, à partir du moment où vous n'êtes pas au crochet de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi pas, si, on l'a, si l'autre l'accepte.
Alors, j'ai retrouvé la. C'est une citation biblique, hein. Alors, désolé, parce que ça va vous contredire. L'oisiveté est la mère de tous les vices, elle en est aussi la maîtresse, dit le Saint-Esprit. Il n'y a point de vice que l'oisiveté n'apprenne aux hommes. Bon, voilà. Donc, si vous êtes oisif, vous avez tous les vices qui vous sont. Et puis, je vais appeler aussi Goethe, qui nous dit. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. Je m'appropriais cette phrase-là. Quand on a des passages de dépression, par exemple, dans la vie, c'est des passages où on a envie de rien. On a envie de rien faire. On est inactif. Et on n'est pas heureux dans ces moments-là. La paresse, on a beaucoup parlé de la paresse jouissive d'Alexandre le Bienheureux ou d'autres épicuriens. Mais on a aussi l'inaction, l'inactivité qui peut être délétère pour la personne. Et puis aussi, un truc qui est important, nous sommes des animaux sociaux, grégaires, on se regroupe, on aime bien échanger, on aime bien faire des trucs ensemble, et celui qui se sent inutile, souvent, n'est pas heureux. C'est pas toujours, mais on aime bien servir à quelque chose, ne serait-ce qu'être le confident, d'être une oreille attentive, d'être un bon copain serviable, mais celui qui a l'impression de n'être personne, donc pour parler d'identité, pas le travail, mais simplement par l'action, hein, on peut dire qu'est-ce qui m'anime. Animer, ça veut dire bouger, hein, on est d'accord. Donc qu'est-ce qui m'anime, c'est qu'est-ce qui me fait bouger. Donc celui qui. Donc c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on a cette connotation péjorative de la paresse un peu dans tous les systèmes philosophiques et religieux, parce que cette paresse, elle est finalement peut-être le reflet d'un état triste de personne, par moment.
Tristesse de la paresse.
Je voulais revenir tout à l'heure sur ce que je vous entendais dire, je me définis comme prof de philo. Pour moi, ça vient de très loin, en fait. Ça vient de la toute petite enfance, parce qu'un enfant est reconnu par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, et non pas par rapport à qui il est. Donc ça n'est pas forcément le poids de la société. D'ailleurs, la société, c'est une grande question, c'est qui. Ni le « on », c'est... Moi-même, dans mes relations, comment je définis, si j'ai des enfants, je les définis comment ? T'as fait ça, c'est bien, t'as pas fait ça, c'est pas bien.
Par activité,
etc.,
oui.
Etc., etc., etc. Voilà ce que je voulais partager.
Ouais. Du coup, moi, j'ai une vision sans doute plus sociale à chaque fois. Pendant mes études, on avait vu... sur la communication, enfin les théories de la communication, et que en fait à chaque échange entre deux individus, il y avait quelque chose qui préexistait de l'histoire de l'individu, notamment de sa position sociale. Et comme aujourd'hui dans notre société à nous, le travail est une valeur, le fait de dire moi je fais pas le travail par rapport à toi, ça inscrit donc dans la hiérarchie sociale. Et du coup, parce que un tel, il est chirurgien et que moi, je suis caissière, d'une certaine manière, je ne veux pas m'adresser à lui de la même manière. Et donc, de demander ça, ça permet de se situer. Et je pense que, à l'inverse, quelqu'un qui est dans une situation, et je dis bien dans notre société, parce que je pense que dans d'autres types de sociétés, la position dans la société, la hiérarchie, elle est définie autrement, parce que je suis plus vieux ou plus jeune, des choses comme ça. En tout cas, dans notre société qui est quand même structurée par le travail, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'est pas dans un groupe social, en fait, parce que, mine de rien, retraité, c'est aussi un groupe social, être professeur, c'est un groupe social, quelqu'un qui sort de ça, en fait, devient marginal, et le marginal peut mettre mal à l'aise, parce que, du coup, je ne sais pas intuitivement comment me positionner face à cette personne. Est-ce qu'elle a fait des études? Est-ce qu'elle a décidé d'arrêter de travailler? Est-ce que c'est un artiste ou quoi? Et du coup, ça peut aussi mettre à mal cette hiérarchie-là, puisque, en fait, la personne, elle a, en tant qu'individu, ben, justement, des,
des passions, des aspirations, des choses comme ça, mais comme on ne connaît pas directement quelqu'un, enfin, on ne s'interroge pas forcément directement quelqu'un en tant qu'individu, mais en tant qu'identité sociale et en tant qu'appartenant à un groupe, voilà. La paresse peut renvoyer à ce malaise-là de ne pas pouvoir se situer face à la personne face à laquelle on est.
Très bien.
Monsieur.
Après tout ce qui s'est dit, je me demande si la paresse, c'est pas un privilège, finalement. Parce que le privilège peut s'accorder quelqu'un qui a déjà de l'argent, qui n'est pas obligé de travailler pour vivre, et que peut s'accorder quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, qui peut vivre de très très peu. Voilà, en considérant que c'est du privilège. Et entre les deux, il y a ceux qui essaient de donner un sens à leur vie en travaillant ou à ne pas travailler. Mais pour moi, la paresse, finalement, ça me paraît plus être un privilège. Ouais. On peut s'accorder quand on n'a pas besoin de travailler pour vivre. Voilà.
Ouais. Oui, c'est ce que madame disait. Enfin, là, derrière, il y a quand même un ancrage social et économique dans cette histoire autour de la valorisation du travail. Effectivement, on ne reproche pas à un rentier bien-né ou une rentière bien-née de ne pas travailler au sens où on l'entend communément, c'est-à-dire de ne pas s'asservir à une activité salariée ou en tout cas rémunératrice pour gagner sa vie. Et on va dire, tant mieux, voilà, on va pouvoir s'adonner à ces diverses activités. Alors qu'effectivement, celui qui ou celle qui sera en bas de l'échelle et qui va refuser, comme ces déserteurs du marché du travail que Pierre-Carl va interroger, ils vont être très vite stigmatisés, montrés du doigt en disant vous vivez au crochet d'eux, vous êtes des parasites, c'est trop facile, et si tout le monde faisait comme vous, vous imaginez, le monde s'écroulerait, etc. Enfin, tout ce discours de culpabilisation sur tu ne fais pas assez d'efforts. Quoi. En gros, si on reste dans les citations religieuses, décidément ce soir, on est dans la religion, Saint Paul, épître, je ne sais plus quel épître, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Voilà. Tu veux pas travailler, tu manges pas. Voilà. Et va pas chercher le pain de ton voisin parce qu'en fait t'as pas fait l'effort. Effectivement, derrière il y a cet ancrage, il y a cette hiérarchie sociale. Mais finalement, ma petite intuition, qui ne reste qu'une intuition, c'est peut-être de se dire que vous disiez c'est une affaire de privilégier. Je suis absolument d'accord avec vous. Je reviens à la fin. Et peut-être qu'aujourd'hui nous sommes tous, je parle dans cette société qui est la nôtre. Attention, c'est très localisé. Je prétends pas universaliser. Nous sommes tous des privilégiés. Nous pourrions tous, par les machines, réduire drastiquement notre temps de travail, voire même imaginer, ça a été évoqué à demi-mot par l'un ou l'une d'entre vous tout à l'heure, imaginer un revenu universel d'existence. On peut l'appeler comme on veut, un revenu de base. Enfin, il y a mille et une expressions. Finalement, qui serait financé par des impôts pris sur ce qu'on appelle la tax machine, quoi. D'accord ? En gros, sur les sociétés qui vont se faire de l'argent sur la mécanisation de leurs tâches, et qu'on reverserait chaque mois à chacun et à chacune d'entre vous. Alors après, les débats entre la gauche et la droite se jouent sur le montant de cette allocation universelle, mais qui serait indépendante des revenus annexes, et qui serait donner à chaque membre de la communauté politique dès sa naissance. Si on prend un revenu de base à 1 000 euros, vous avez dès votre naissance 1 000 euros qui sont bloqués sur votre compte en banque jusqu'à l'âge de vos 18 ans, qui se débloquent à 18 ans et un jour, donc ça vous fait un petit capital, je vous laisse calculer, 18 fois 1 000 fois 12. Non. Voilà, 1 000 euros par mois. Et donc, on résout quand même pas mal de problèmes d'autonomie des jeunes gens, etc., etc. Et surtout, on permet à quelqu'un de ne pas s'aliéner à une activité, vous parliez des boulots de merde, les bullshit jobs, là, si on veut traduire comme ça, boulot ne gagne pas, de ne pas servir à cette activité ou de s'y asservir si on veut augmenter son revenu. Aujourd'hui, c'est économiquement et techniquement envisageable. Parenthèse, je suis membre de l'association pour un mouvement du revenu de base, donc j'ai un discours un peu militant. Voilà, il faut toujours se situer. Pardon, monsieur.
Alors, je voudrais revenir sur quelqu'un a évoqué le thème de la dépression. Il me semble que depuis le début de cette soirée, on parle de la paresse comme un choix, un refus de quelque chose. Il me semble que dans le cas d'une pathologie, on est plus dans le cadre de l'empêchement. Ce n'est pas la même chose. Et puis pour revenir à quelqu'un qui a évoqué le livre L'éloge de la paresse, il se trouve que ça me dit quelque chose, et moi non plus, j'arrive pas à retrouver le nom de l'auteur, et j'en conclue qu'il aurait mieux fait de travailler.
Ah, c'était Jolien ? Non, Jolien, c'est Éloge de la faiblesse, non ? De mémoire, hein, je n'ai pas Wikipédia en tête. Mais... Oui, jeune homme.
J'aimerais revenir à un sujet qui a été évoqué par,
pardon,
par madame tout à l'heure, sur le fait que la valeur du travail et la dévalorisation du comportement paresseux passe par l'enfance. Et moi, j'ai un exemple précis. Mon père est totalement work addict. Il ne supporte pas la paresse. Et je pense que ça s'est traduit par... en fait, durant son enfance... il a eu justement une mère dépressive, donc contrainte à la paresse, et un père alcoolique, donc qui n'était pas en mesure de travailler. Donc je pense que l'image que lui a renvoyée la société, vu qu'il a traversé des difficultés par rapport à ça, c'est que en ne travaillant pas, on ne peut pas être reconnu socialement et en fait on ne sert à rien, et que pour lui le travail ça a été toujours une valeur supérieure, un moyen de s'en sortir, et c'est ça qui a créé en lui ce besoin de travailler. Donc déjà par son vécu et aussi par ce que lui a appris la société. Et je pense que ça va presque dans le trouble, parce que il est maintenant incapable de se reposer, de paresser, mais même le minimum vital, et son travail lui prend énormément de temps. Et donc là, on verrait aussi un vice du travail, et on pourrait se dire que si le travail peut devenir jusqu'à un trouble, ce serait peut-être que l'état normal, ce serait d'avoir un minimum de besoins de paresse, et que ce serait donc dans la nature humaine de paresser, d'avoir besoin de repos. Et même si la société a besoin que les individus soient productifs et travaillent, peut-être trop incité au travail, ce serait aussi aller contre la valeur humaine qui est d'avoir besoin de repos, de paresse, de temps pour soi.
Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Encore deux prises de parole. Très bien.
Je me demandais s'il n'y a pas un problème de société. Il y a certaines sociétés qui... Est-ce que ce n'est pas un problème de temps aussi? Le temps qui coule. Il y a des sociétés dans lesquelles le temps coule beaucoup plus rapidement et d'autres plus lentement. Et je pense que la réaction qu'on a de travail, d'activité, est peut-être liée à ça aussi. Hein. Dans une période où il faut forcer, il faut courir, effectivement. Là. Mais il y a des sociétés où il y a une sévérité familiale, où on ne court pas, on s'arrête, on peut discuter de temps en temps, etc. On en connaît des sociétés comme ça, encore actuellement.
Juste un petit point. Alors, actuellement, quand vous lisez un petit peu d'anthropologie, ce que j'aime beaucoup faire, quand vous lisez, c'est un anthropologue, ce sont des enquêtes du début du XXe siècle, de Malinowski, chez les Indiens, ou les Indiens des îles Trobriand, ou Pierre Clastre, de manière plus récente, à la fin du XXe siècle, sur les Indiens Guayaki, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, effectivement, c'est une temporalité qui est totalement différente de la nôtre. Mais que ces hommes et ces femmes-là travaillent 2-3 heures par jour. Et Clastre, qui arrive chez ces Guayaki, là, c'était une tribu qui vivait au nord de l'Amazonie, la première réaction qu'il a, mais il regarde comme ça, mais...
Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, ils sont assis, ils discutent.
Ils discutent, quoi.
Voilà. Ils ne passent pas non plus leur temps à méditer, c'est assez rare, et à contempler le soleil ou les nuages, etc. Ils discutent. Et en disant, mais vous n'allez pas chasser et tout, vous n'allez pas cultiver, etc. Ils disent, non, pourquoi faire ? Voilà, effectivement, donc, nous, c'est parce qu'on a tendance à essentialiser et universaliser comme étant la nature de l'homme. En fait, si on regarde, si on détourne un peu notre regard, dans nos sociétés passées et dans d'autres sociétés que la nôtre,
on a l'impression quand même que tout ça est bel et bien relatif.
J'ai retrouvé l'éloge de la paresse, c'est Eugène Marsan, c'est de 1926. Voilà. Et puis sinon, par rapport à j'en profite que j'ai le micro, j'ai une amie qui a travaillé pendant un temps dans une clinique psychiatrique de l'Ouest parisien très haut de gamme, où il y avait beaucoup de gens oisifs, paresseux, en dépression profonde, malgré leur fortune énorme. C'est un clinique où le moine tabouret était monument historique, enfin c'était dans un parc magnifique. Voilà, donc on peut être paresseux, riche et malheureux.
Il y a un monsieur qui...
Il y avait un monsieur, le monsieur là, il disait aussi que l'empêchement, donc du coup le handicap aussi, quelqu'un qui est handicapé par exemple, il a envie de l'empêcher pour sa vie, pour le travail, et en fait c'est déjà un statut. On a déjà un statut quand on est handicapé, donc est-ce qu'on est rien? Je ne crois pas. On peut se lever tôt le matin et avoir tout le temps de rien faire après derrière. Est-ce qu'on est courageux pour autant? Je ne suis pas sûr. Mais on peut se lever tard aussi, puis faire des choses. Enfin, voilà.
Peut-être qu'on... Enfin, s'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir, oui, qu'on va conclure, mais... Ben justement, je voudrais revenir un peu sur ce que vous dites, sur très touchant, sur la personne en situation de handicap. Si effectivement on fait du travail le pôle central de notre identité, de notre statut, effectivement, ne pas travailler ou ne plus travailler, ou ne pas encore travailler, si tant est que vous ne travaillez pas, jeunes gens, ça serait ne pas avoir d'identité, ça serait soit ne pas encore être un travailleur, soit ne plus l'être. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis retraité. Soit ne pas pouvoir l'être. Et finalement, comme si une sorte de négation de notre identité. Comme si finalement la reconnaissance sociale passait absolument par l'activité qu'on appelle le travail. Et finalement, il me semble que ce qui s'est joué dans les différentes interventions, c'est toute l'ambiguïté de notre rapport au travail. C'est qu'on veut et on ne veut pas travailler. Si on revient à l'étymologie, vous savez, elle est très célèbre, l'étymologie latine du mot travail. Travail, ça vient de tripalium en latin. Et tripalium, vous savez sans doute, c'est un instrument de torture. C'est l'instrument de torture, alors c'est même plus précis que ça, c'est trois pieux qu'on mettait sur la nuque des bovins pour les forcer à avancer. Et donc finalement, voilà, le travail, que ça soit d'origine religieuse ou sociale, ou en tout cas, bref, il y a quand même cette idée que le travail, c'est d'abord la torture, c'est une contrainte à laquelle mon corps m'a servi, parce qu'il faut bien vivre, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien reproduire sa force vitale, ou une contrainte à laquelle la société m'a servi. Et j'en étouffe, en fait, je peux même en crever, en fait. De ce travail. Mais en même temps, le travail, c'est aussi, certains l'ont évoqué, le lieu et le temps de la réalisation de soi. Chez un philosophe comme Hegel, qui est un philosophe allemand de la première moitié du XIXe siècle, qui d'ailleurs, c'est pas un hasard, était l'un des maîtres à penser du jeune Karl Marx à Berlin. Hegel dit de mémoire, hein, je n'ai pas forcément la citation en tête, mais au mot près, mais il dit la chose suivante: tout travaille à faire un homme en même temps qu'il travaille à faire quelque chose. C'est sans doute mieux dit. Et finalement, c'est l'idée que le travail, c'est pas une activité qui est simplement, j'étais parti de là initialement, socialement utile. C'est que travailler, c'est se former soi-même. Travailler, c'est finalement se construire soi-même. Travailler, c'est se réaliser soi-même. Travailler, c'est s'accomplir soi-même. Et en ce sens, peut-être aussi distinguer le travail, et vous l'avez évoqué à un moment donné, distinguer le travail des travaux auxquels on est malheureusement parfois contraint. C'est-à-dire que le travail, en soi, c'est le propre même de l'humanité. Le travail, c'est ce par quoi je m'affirme en me socialisant, en produisant autre chose que moi-même, je peux me reconnaître dans ce que j'ai produit. L'artisan se reconnaît
dans le meuble, si je prends l'exemple de l'ébéniste, qu'il a lui-même conçu, produit, alors on a choisi des matériaux, il a acquis des techniques de fabrication, et finalement, ce meuble qui lui fait face, c'est lui. Voilà. Voilà, il a donné une partie de, si je voulais prendre des termes un petit peu lyriques, une sorte de une partie de son âme dans cet objet. Et donc finalement, le travail, c'est ce par quoi je me réalise et ce par quoi je me reconnais moi-même. Je ne parle même pas de la reconnaissance des autres. Sauf que certaines organisations du travail, certaines injonctions sociales, certains types de travaux, extrêmement hiérarchisés, vous avez parlé de travaux inutiles, des travaux sur de souffrance, à l'âge de la retraite, si on a la chance d'y arriver, on est complètement cassé. Certains types de travaux empêchent le travail d'être à la hauteur de son essence. Et finalement, la souffrance au travail vient de ce que j'aimerais pouvoir travailler, au sens hegelien du terme. J'aimerais me travailler à être moi-même en travaillant à produire autre chose. Mais simplement, vous ne m'en donnez pas les moyens. Et le « vous », ça va être la hiérarchie sociale qui va me contraindre à des activités inutiles ou absolument abrutissantes. Le « vous », ça va être la pression des proches qui vont m'obliger à aller gagner ma croûte, alors que moi, ce que je voulais, c'était être au bord de la Loire pour contempler les hérons. J'adore ça, je l'ai remarqué. Et finalement, le travail, tel que je vais le vivre, mon travail à moi, finalement, ne va pas être à la hauteur du travail. Et c'est pour ça que la paresse intervient. La paresse est peut-être, je me permets ce petit paradoxe, qui à mon avis n'en est pas un, la paresse que j'entendrais plutôt ici comme oisiveté, je reviens à ma distinction de tout à l'heure, la paresse, ça va peut-être ce moment ou cette activité par laquelle je vais réellement travailler. C'est-à-dire je vais travailler à me construire moi-même, une sorte de souci de soi, de sculpture de soi, ce qui ne veut pas dire un souci égoïste ou égotiste, hein, ça ne veut pas dire forcément moi, dans, tel que l'individu libéral voudrait qu'il soit. Je peux avoir, pourquoi est-ce que je peux m'inscrire dans des associations, pourquoi est-ce que je peux être bénévole? Parce que je me réalise moi-même en ayant le souci des autres. Et finalement, peut-être que la paresse, je reviens à mon propos, c'est peut-être ce mouvement par lequel chacun se réapproprie le sens propre du travail, qui n'est pas de servir un patron, servir un système capitaliste, servir un Black Friday ou servir je ne sais quel algorithme qui va m'envoyer un message en me disant tu devras faire ci, tu dois faire ça. C'est finalement se réapproprier le sens même du travail qui est de se réaliser soi-même à travers l'ensemble de ses œuvres. Ce pourquoi l'artiste travaille, ce pourquoi l'artisan travaille, ce pourquoi je me définis comme, alors je ne sais pas si la philosophie est un luxe, mais en tout cas, pour moi, c'en est un et c'est même une chance. C'est pourquoi je travaille. Je travaille au sens où je me réalise dans les propos libres que je peux tenir devant les élèves. Et malheureusement, bien des personnes n'ont pas cette possibilité sociale. Et donc finalement, comme si finalement les conditions de travail, les modalités de travail, je ne parle pas forcément du travail dans un système capitaliste, c'est la même chose dans un système esclavagiste, évidemment, l'esclave travaille. C'est la même chose dans un système de servage, c'est la même chose dans un système autoritaire de type soviétisme, avec, vous voyez, cette injonction de la production, etc. Bref, comme si finalement le travail était malheureusement bloqué par les conditions de travail. Et c'est là où il faudrait, vous connaissez cette fameuse formule de Voltaire. Voltaire termine, vous savez, termine son conte philosophique, Candide, par un appel. Tout va mal dans le monde, hein, le monde est pourri, bref. Moi, Candide, j'ai découvert que tout allait pour le pire dans le pire des mondes possibles. Voilà, tout va mal. Mais comment est-ce que je fais pour espérer? Comment est-ce que je fais pour essayer de me trouver un petit instant, un petit lieu de vie heureuse? Et Voltaire nous dit, mais en fait, c'est pas très compliqué, vous prenez un petit bout de terre, vous êtes avec quelques amis, et vous travaillez, et vous connaissez la célèbre fin de Candide, et maintenant cultivons notre jardin. Mais cultiver son jardin dans les deux sens du terme, c'est-à-dire je cultive la terre, je travaille, mais je travaille comme l'artisan travaillait, ou comme l'artisan travaille, c'est-à-dire, et non pas comme l'ouvrier asservi ou je sais quel type d'emploi, c'est pas forcément un ouvrier, ou comme l'employé asservi. Je travaille à cultiver la terre parce que je m'y reconnais dans cette terre. Non seulement elle va me nourrir, mes proches, moi ou d'autres, d'accord. Non seulement elle va me nourrir, non seulement je vais suer pour cette terre, je vais consacrer un effort, mais un effort dans lequel ça ne sera pas un effort contraint, ça ne sera pas un effort subi, ça sera un effort qui sera décidé par soi-même. Mais évidemment, c'est à la fois cultiver la terre et cultiver son jardin, c'est évidemment cultiver son esprit. Mais on ne peut peut-être cultiver son esprit qu'en cultivant la terre, c'est-à-dire qu'en travaillant. Et peut-être que le véritable travail, ça serait peut-être l'autre nom de la paresse, c'est celui dans lequel, finalement, je réclame non pas forcément un droit à la paresse, mais un droit à un travail pleinement humain, dans lequel chacun puisse, autant qu'il le peut et autant qu'il le veut, cultiver son propre jardin. Sur ce, donc n'hésitez pas à prolonger la discussion. On ne travaille pas, on partage un moment ensemble. Thank you.